IA et moi, et vous et nous, un podcast sur les intelligences artificielles génératives, présenté par Jacqueline Pinon et Sébastien Beaujot.
Vous connaissez la formule ?
Bienvenue dans un nouveau monde.
Un nouveau monde que nous explorons depuis ce début d'année avec celui qui s'y plonge au quotidien pour nous en parler afin de mieux en cerner le champ des possibles. Ce sont les cas d'usage que nous mettons en évidence dans ce podcast afin de déterminer en quoi l'IA générative, puisque c'est bien d'elle dont il s'agit, peut nous aider dans notre quotidien. Tout va vite, très vite,
oh là oui.
Messieurs,
okay,
dames,
oui.
Mais il est toujours temps de prendre le train. C'est ce à quoi s'emploie France Travail, ex-Pôle emploi, qui l'utilise désormais pour ses agents et pour les demandeurs d'emploi qui ne l'ont sans doute pas attendu pour l'utiliser. Bonjour Sébastien.
Bonjour Jacqueline, bonjour à tous.
Quand je dis pas attendu, c'est que j'imagine que les demandeurs d'emploi l'utilisent donc pour la création de leur CV et pour leur lettre de motivation.
Oh oui, il y a de grandes chances. Alors après, il y a ceux qui ne connaissent pas encore ces outils-là, mais évidemment, s'ils les connaissent, il y a de grandes chances qu'ils aient utilisé ChatGPT en l'occurrence, parce que c'est le plus connu, pour faire la lettre de motivation ou pour faire le CV. Ça me fait penser aussi qu'il y a un petit terme, je ne sais plus si on en a parlé, qui s'appelle le Shadow IA, parce que tu disais qu'ils n'ont pas attendu d'avoir l'outil pour l'utiliser. Dans les entreprises, par exemple, ça peut intéresser aussi nos dirigeants qui nous écoutent ou les responsables de
service.
Le Shadow IA, c'est le terme qui désigne les personnes qui utilisent des outils comme ChatGPT sans en référer au N+1 ou aux dirigeants. Et ça peut poser des soucis en termes de sécurité de données, de transparence, d'éthique, etc. etc. D'où l'intérêt, évidemment, de mettre le sujet sur la table dans le monde de l'entreprise et de former les équipes, parce qu'on peut, pourquoi pas, mettre des dossiers plutôt sensibles, je n'ai pas envie de dire secrets, hein, mais en tout cas sensibles dans la machine.
Oui.
Donc il y a aussi des bonnes pratiques à connaître, et le Shadow IA prend beaucoup d'ampleur aussi dans le monde des entreprises.
On en reparlera
donc. On en reparlera, évidemment.
Moi, j'en reviens à ma lettre de motivation.
Donc,
c'est pas toujours si facile de personnaliser une lettre. On en vient souvent à des phrases bateau. Enfin, quand on en reçoit, on sait que chacun essaie bien d'y mettre sa petite touche, mais c'est pas toujours aussi simple. Et de trouver justement la punchline qui va permettre de donner une accroche et de se dire tiens, celui-ci ou celle-ci, elle sort un peu du
cadre. Ce qui va faire la différence.
Voilà. Donc l'IA là-dedans.
Ouais, alors ce qui est vachement intéressant avec les outils comme ChatGPT, Mistral, donc qui sont des agents conversationnels, des outils que l'on peut dont on peut se servir, c'est qu'ils nous dégagent de la charge mentale. Au lieu de partir d'une feuille blanche pour réaliser sa lettre de motivation, eh bien on peut déjà lui demander, à ChatGPT en l'occurrence, fais-moi une lettre de motivation, en lui expliquant évidemment pour quelle entreprise, ou en tout cas secteur d'activité, pour quel poste aussi à pourvoir. Et il vous donnera un premier bloc, une première lettre de motivation. Il sait ce que c'est une lettre de motivation, donc il connaît les codes des lettres de motivation. Et puis après, vous pourrez converser avec l'outil pour lui dire, là, t'es trop générique. Fais-moi une lettre de motivation plus impactante.
Surtout le candidat aura donné ses qualités.
Exactement.
Il lui aura indiqué ce qui fait sa force.
Ah ben le candidat, par exemple, pourrait très bien, si tant est qu'il ait fait son CV avant, lui donner à ChatGPT, quand vous allez sur la plateforme, un petit plus juste en dessous la barre d'instruction. Eh bien là, ça vous permettra de rentrer un fichier en fait dedans, et vous lui donnez votre CV par exemple sous format PDF ou Word, mais généralement c'est plutôt des formats PDF. Vous lui donnez votre CV et vous lui dites voilà, en t'inspirant de mon CV, eh bien tu me crées une lettre de motivation, ou tu me proposes une lettre de motivation pour le poste X ou Y. Donc il va reprendre effectivement notre expérience professionnelle, extra-professionnelle, nos qualités du CV pour en faire ensuite une lettre de motivation. Il faut bien penser aussi à ne pas s'arrêter au premier contenu qu'il va vous donner, mais continuez à converser avec l'outil comme
on
si vous aviez.
On alimente.
C'est ça, on discute, on converse pour lui dire ce paragraphe-là, moi je le trouve trop fade ou pas assez expressif, est-ce que tu peux me le reformuler, etc. etc. Est-ce que tu peux commencer ce paragraphe-là par une punchline, justement, comme tu disais tout à l'heure, quelque chose qui soit impactant, qui potentiellement pourrait attirer le futur employeur. Donc on continue à converser
au
avec lui.
Au moins attirer sa curiosité.
Exactement,
ouais.
C'est ça. Et puis après, au bout de... Allez, sur une lettre de motivation, hein. Ça va être 2-3 questions supplémentaires et puis après vous avez votre outil que vous pouvez retravailler vous aussi. Attention, derrière, hein, vous avez la possibilité aussi de modifier des choses.
Le cerveau est humain, ne l'oublions pas.
Ne tombez pas dans la fainéantise cognitive, on va le répéter assez régulièrement dans cette émission. Mais déjà, vous avez un premier bloc, ça je le disais tout à l'heure, c'est qu'on ça nous évite en fait la page blanche. Et c'est ça qui est intéressant avec ces outils. Eh ben, on n'a jamais la page blanche, on a déjà un premier bloc de travail qu'on peaufine après suivant notre personnalité.
Oui, ça peut être inspirant en fait.
Exactement, c'est tout à fait ça, c'est inspirant. Ces outils sont inspirants.
Le CV, c'est un peu la même chose. Ça va permettre en fait de peut-être faire des synthèses ou même dans la mise en page peut-être.
Alors dans la mise en page, il ne vous sortira pas un produit clé en main comme on peut trouver par exemple sur un outil comme Canva. Canva est une plateforme numérique, un outil numérique aussi, où on peut faire en l'occurrence des CV. Canva est très très largement utilisé parce que c'est très intuitif. Vous avez une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine, même peut-être plus de ce qu'on appelle les templates, donc de modèles. Et puis après, vous avez juste à modifier la photo et puis votre nom. Donc déjà, là aussi,
on ne change pas sa tête, rassure-moi.
Non, c'est...
Parce que la surprise pourrait être totale à l'entretien.
Pensez bien, c'est comme tout, hein. C'est comme aussi dans l'éducation nationale. Pensez bien que c'est bien d'utiliser ces outils-là à la rédaction, mais qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver soit à faire des euros, soit
en face
le directeur ou la directrice des ressources humaines. Et là, évidemment, là où c'est important, c'est quand justement vous vous retrouvez en face le potentiel employeur. Pensez bien qu'il a lu votre CV et votre lettre de motivation. Donc,
si elle est trop belle, cette lettre,
c'est ça, attention,
il va falloir
parce qu'ils sont pas fous
hauteur,
non plus. Hein. Les responsables ressources humaines, ils savent bien que les lettres qu'ils reçoivent à l'heure actuelle sont en partie travaillées avec l'IA, évidemment. Mais je rassure aussi de l'autre côté de la barrière, hein, les responsables ressources humaines utilisent aussi l'IA pour faire des offres d'emploi, pour faire aussi des fiches de poste.
Ouais, donc, mon cher Sébastien, il faut être à la hauteur de son CV et de sa lettre de motivation,
oui.
Évidemment.
Oui.
Ceci étant, le recruteur, le chef d'entreprise peut se dire, tiens, mon candidat, ce candidat, il maîtrise déjà ou en tout cas, il est apte à utiliser ou il a fait l'effort d'utiliser cette nouvelle technologie-là et ça peut être une vraie valeur ajoutée, ça.
Alors, faut que le
il va le percevoir quoi,
oui,
tout de suite.
Bah, pas forcément, non.
Ah non, si la lettre est trop... si elle est trop bien faite, il va se dire, attends.
Ça va dépendre des responsables.
Mais ça dépend comment tu le prends. Enfin, je trouve que c'est bien pour un recruteur
mais
de voir que...
On ne le sait pas forcément, en fait. Pour certains qui sont mal faits ou mal utilisés l'outil, ça va se voir assez rapidement. Maintenant, on rentre dans une ère où les responsables ressources humaines ou les employeurs, ils savent très bien que maintenant, tout passe quasi par l'IA. Donc ça veut dire effectivement, ils peuvent se dire la personne peut maîtriser un agent conversationnel, c'est une compétence supplémentaire. La question peut se poser, est-ce qu'on doit mettre aussi qu'on maîtrise des IA et des outils numériques comme ChatGPT sur
Alors,
son
on
CV
on doit mettre, c'est-à-dire il y a une obligation
Non, pas du tout, mais le candidat peut très bien mettre dans ses compétences.
Le préciser, bien sûr.
Qui maîtrise la suite Office, mais aussi qui maîtrise ChatGPT ou d'autres agents. Ça peut faire la différence, hein, effectivement, dans une recherche d'emploi.
France Travail, alors dans tout cela
France Travail, à chaque fois, en tout cas à l'époque, Pôle emploi, on critiquait beaucoup ces grandes institutions, mais elles avancent aussi avec l'IA. Maintenant, toutes les grandes entreprises et les institutions françaises mettent de l'IA partout, infusent de l'IA partout. Et double avantage de France Travail, je trouve, c'est le fait d'utiliser donc une intelligence artificielle. Alors, pas ChatGPT. Ils ont collaboré avec une entreprise française qui a sa propre IA qui s'appelle Mistral. Vous en avez peut-être entendu parler. On aura l'occasion de faire un épisode sur Mistral parce que franchement, c'est un outil qui commence à beaucoup avancer et progresser. Et en plus, c'est français. Un peu plus de transparence, d'éthique et je trouve, et de sécurité de travailler collaborer avec une boîte française qu'une boîte américaine. Donc, ils ont créé une IA exprès pour France Travail qui va aider d'un côté. Eh bien, les salariés de France Travail,
les
agents, et puis de l'autre aussi les demandeurs d'emploi qui ont accès à des cours aussi pour avancer sur ces sujets-là. Ils peuvent se faire aider de cette IA-là pour justement faire leur CV et leur lettre de motivation. Et pour les agents, ils cèdent aussi, ils ne sont pas remplacés par l'IA, attention, hein, ils cèdent juste de cet outil-là pour mieux discuter, mieux converser avec les demandeurs d'emploi, en tout cas mieux les accompagner aussi. Donc ça change aussi, ça bouleverse aussi pas mal ces métiers-là. Et j'espère, mais j'en suis quasiment certain, que les agences sont formées.
Alors c'était ma question piège. Est-ce que vous avez vérifié vos sources, Sébastien Bourgeot? Est-ce que les agents de France Travail ont été formés? J'imagine que oui.
Alors après...
mais alors, double question, est-ce qu'ils sont formés avec le... e-learning,
oui.
Ou bien sont-ils formés
en présentiel avec un formateur tout à fait.
Qui pourrait être moi.
D'ailleurs, si
on lance l'appel,
si
c'est
les dirigeants de France Travail m'écoutent, vous trouverez facilement mon 06 quelque part.
Comment faire d'une pierre deux coups? Vous pouvez m'appeler, je vous le donnerai si vous m'y autorisez.
Bien sûr, bien avec grand plaisir. Oui. Alors après, oui, bien sûr que les agents ont été accompagnés. De quelle manière, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, c'est comme tout outil. Il faut avoir une formation avant de pouvoir l'utiliser.
Et surtout être meilleur que son demandeur d'emploi dans ce domaine.
Ça serait mieux.
Alors, France Travail, moi j'ai lu, Sébastien, qu'il utilise en fait le calendrier de l'IA. Alors, en fait, ça fonctionne comme un calendrier de l'Avent. Il faut que vous m'expliquiez ça. Chaque jour, une nouvelle capsule qui permet en fait de découvrir, je lis mon texte, hein, des applications de l'intelligence.
Ben, en fait, c'est des cours en distanciel. Voilà, c'est ça, en distanciel. Une sorte de mini-webinaire, une mini-vidéo.
Oui. Enfin, c'est une méthode d'apprentissage.
C'est une méthode d'apprentissage. Et puis, ben, chaque semaine ou chaque mois, on reçoit un lien qui nous amène vers ces formations-là. Et puis, on avance comme ça. Alors, ils ne sont pas les seuls à faire ce genre de formation comme ça en distanciel. Ça commence à se faire de plus en plus. L'éducation nationale va mettre en place aussi ce genre d'outils. Ça veut dire aussi des formations en e-learning pour les élèves de 4e à la seconde à la rentrée 2025, mais aussi pour les professeurs qui le souhaitent pour avancer aussi sur ces sujets-là.
Ça aussi, c'est un vrai chapitre. Il faudra
ouais,
qu'on en reparle.
Il faudra absolument qu'on en reparle avant la rentrée de 2025. Parce
peut-être
que, oui,
qu'on pourrait alimenter d'ailleurs avec des témoignages.
Ouais. Ouais, ça serait super intéressant. Qui utilise déjà l'IA en classe, par exemple, pourquoi pas.
Ou qui s'inquiète de cette révolution.
Ouais, tout à fait. C'est parce que c'est un vrai sujet.
Vous-même donner des cours, former des gens. Alors, est-ce que cette IA, là, cette e-learning, ne va pas vous prendre votre travail, Monsieur Bourgeot?
Ben, potentiellement, quand on avait dit peut-être dans les premiers épisodes que ça allait bouleverser tous les secteurs d'activité, le mien est compris,
oui.
Évidemment, qu'on peut très bien créer maintenant avec des avatars, des formations, avec des outils et des IA, et potentiellement remplacer aussi la partie formateur et formatrice. On n'est pas à l'abri, personne n'est à l'abri du changement
là,
et de la révolution.
Vous, regardez, vous qui m'apprenez dans cette chronique ce qu'est l'IA, l'échange qu'on a, le dynamisme qu'on y met, le sourire. J'imagine si j'avais un ordi devant moi, j'en ai, hein,
ouais.
Mais pas sur l'essentiel.
Ça sera jamais aussi bien.
On est d'accord, je voulais que vous le disiez haut et fort.
Ça sera jamais aussi bien.
Et vos
bien.
Yeux verts, et votre
ben,
pull vert,
oui,
et votre
évident.
Casque sur la tête. Mais franchement, et moi je ne me sentirais pas aussi inspirée, forcément.
Mais c'est évident. Donc j'ai encore un peu de boulot et un peu de...
Eh bien je l'espère pour vous, et pour moi d'ailleurs.
Aussi.
Merci Sébastien.
Merci, à très vite.
Prochain rendez-vous, on parlera de...
Allez, si on parlait justement de Mistral.
Ok, on détaillera
on détaillera
ces fonctions,
Mistral. Ouais,
on fera plusieurs chapitres.
On va détailler quelques fonctionnalités de Mistral.
Donnez-moi un exemple.
Eh ben, par exemple, on peut très bien avec Mistral créer des images, des visuels bien plus intéressants, bien plus jolis, on va dire, je mets des guillemets à jolis, que peuvent faire ChatGPT. Donc utilisez, si vous voulez faire des visuels, utilisez plutôt Mistral que ChatGPT.
Eh ben, on développera si vous le voulez bien. Je vous prendrai en photo.
Oui.
À bientôt.
À très vite.
L'IA et moi, et vous et nous. Un podcast sur les intelligences artificielles génératives, présenté par Jacqueline Pinon et Sébastien Bourgeot.